donner une voix à celles qui n'en ont pas. Un vendredi sur deux à 18h, Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour et bienvenue. Bienvenue sur Radio Campus Paris, l'émission Donner une voix avec Moni. Moni au micro. Bonjour à tous et bonjour à toutes surtout. Je suis très très heureuse de vous recevoir dans notre émission. Merci, merci de nous écouter. Aujourd'hui, on va accueillir Saja. Saja, bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Ah voilà, Saja réalise l'émission et c'est elle qui nous prépare des sublimes pauses musicales.
Exactement.
Merci, merci Saja. On va découvrir toutes tes pauses dans peu de temps. Et on est aussi avec Claire. Claire, bonjour.
Bonjour Mandy. Bonjour Claire, à toutes et à tous.
Voilà, Claire, eh ben, Claire, elle accueille nos invités. Elle reçoit nos invités, elle les accueille, elle les installe. Voilà, avec sa douceur habituelle. Et elle s'occupe aussi de vous donner les numéros de téléphone précieux que je vous conseille de mettre de côté, de garder. Vous pourriez en avoir besoin. Voilà, au cours de l'émission, on les donnera à plusieurs reprises. Donc, n'hésitez pas à prendre note. Mais pour l'heure aujourd'hui, eh bien, j'accueille une association, enfin, c'est pas un représentant d'une association, l'association SOS Victimes. J'accueille Jérémy Hellman. Jérémy Hellman, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, et vous-même ?
Bon, très bien, très bien. Pas un peu surpris de se retrouver. En tout cas, on est ravis et un grand merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
Voilà, on avait vraiment besoin de recevoir un psy qui puisse nous parler des conséquences des maltraitances, des violences que peuvent subir les femmes et quelques hommes, hein, puisque grâce à vous, j'ai aussi découvert oui, qu'il y a quelques hommes, notamment les gays, hein, qui peuvent aussi être des victimes, il n'y a pas que les femmes.
Absolument.
Oui. Mais il y a beaucoup de femmes.
Oui, surreprésentées, oui.
Alors, Jérémy, d'abord, peut-être vous pouvez nous parler un peu de vous, de votre spécialité. Vous êtes c'est une bonne question.
Je suis psychologue clinicien.
Voilà. Voilà. Merci, merci de venir à mon secours.
Depuis près de 28 ans.
Oui, oui.
Voilà.
Oui. Vous êtes spécialisé dans le trauma quand même. Hein.
Alors, comme je travaille 2 jours par semaine à l'association départementale d'aide aux victimes d'infractions pénales de la Seine-Saint-Denis,
voilà, hein,
qui s'appelle SOS Victimes 93, je reçois effectivement une population, des personnes qui, pour beaucoup d'entre elles, ont vécu des événements potentiellement traumatogènes et qui peuvent avoir développé par la suite des symptômes psychotraumatiques, mais pas exclusivement, mais effectivement une surreprésentation, pour reprendre le terme.
Ouais. Oui. Alors, au cours de la préparation de l'émission, vous m'expliquiez, parce que là, les auditrices, et peut-être auditeurs, hein, parce qu'il peut y avoir des frères, des époux, des papas, qui peuvent aussi écouter l'émission et vouloir aider une femme autour d'eux. Je vais perdre le fil avec toutes mes histoires. C'est pas nécessaire d'avoir entamé une procédure, c'est ça que je voulais dire, pour faire appel à votre association.
Tout à fait. Pour prendre contact avec une association du réseau France Victimes, hein, puisque c'est une association qui appartient à ce réseau, il y a plus de 130 associations fédérées par le réseau France Victimes, à peu près une au moins dans chaque département, il n'est pas nécessaire d'avoir entamé ou engagé une procédure judiciaire. Il suffit d'avoir été victime d'une infraction, victime d'une agression, d'un vol, d'une agression sexuelle, d'une escroquerie, pour que cela justifie la prise de contact avec l'association. Il n'est pas du tout nécessaire d'avoir déposé une plainte, et le contact avec l'association se fait de façon anonyme et gratuite, bien entendu.
Très bien. Et donc, ça peut aussi être, du coup, on peut du coup s'informer, et ça peut être un point de départ, finalement.
Tout à fait. Pour un certain nombre de personnes, ça peut être des rencontres, soit avec des psychologues de l'équipe, soit avec des juristes, hein, qui sont des professionnels du droit spécialement formés. Ça peut être un point de départ à une réflexion sur le fait ensuite ou pas de s'engager dans une procédure judiciaire. Si ce sont des faits qui sont assez anciens, par exemple, ça peut être l'occasion de peser le pour et le contre avec des psys, avec des juristes, de voir si ça vaut le coup ou pas de s'engager dans une procédure.
Très bien, très bien. Mais comment encourager une personne, du coup, à vous appeler, si, parce qu'elle pourrait nous dire, ben non, moi, je veux pas porter plainte. Vous avez bien expliqué, hein, comment. Mais qui peut dire, ben non, j'ai pas en projet de porter plainte, ni de. Mais elle peut aussi s'informer des possibilités ou de comment être aidée simplement.
Exactement. Enfin, simplement, nous sommes là pour informer, et aider et accompagner dans les démarches si les personnes souhaitent s'engager dans des démarches. On n'est pas du tout là pour forcer la main ou faire à la place, on est là pour informer, accompagner, aider si besoin, soit vers une procédure judiciaire, soit vers des soins spécifiques en fonction des attentes, en fonction des difficultés qu'on peut repérer. On est aussi en mesure de pouvoir orienter vers des consultations spécialisées pour une prise en charge psy adaptée.
Voilà, comme on le disait au départ, c'est un véritable accompagnement. La première raison pour laquelle on peut vous appeler, c'est déjà le fait de ne pas rester seul.
Tout à fait. Libérer la parole, accéder à des informations. Parce que souvent, on n'ose pas, ou on n'a pas accès à toutes les informations. On est influencé par des personnes de notre entourage qui vont nous dire « tu devrais ceci, tu ne devrais pas cela », etc. Souvent, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément de très bons conseils, surtout si elles se renseignent sur Internet ou TikTok. Voilà, il vaut mieux rencontrer des professionnels expérimentés de façon anonyme et gratuite et sans aucun engagement pour pouvoir ensuite prendre des bonnes décisions. Voilà. En tout cas, la bonne décision, c'est celle qui appartient à la personne. On n'est pas là pour influencer la décision.
Bien sûr, bien sûr. Et les auditeurs auront l'occasion de découvrir les possibilités qui peuvent s'ouvrir, puisqu'on aura l'occasion de recevoir des femmes qui vont témoigner de l'aide qu'elles ont eue et comment elles sont sorties et comment elles ont avancé dans leur vie.
D'accord.
Voilà. Alors, peut-être pourriez-vous nous dire quelles sont les raisons qui peuvent amener ces femmes à vous appeler ? Est-ce que c'est très large ? Est-ce que on peut vous contacter, par exemple, si pour notamment puisqu'on s'adresse aussi à un public vulnérable, donc des personnes handicapées aussi, pas seulement, mais aussi si des personnes souffrent de nuisances sonores depuis longtemps, ne trouvent pas de l'aide, est-ce que par exemple tapage et que ça a des conséquences sur leur vie, est-ce que par exemple c'est une raison pour laquelle elles peuvent entrer en contact avec vous?
Ça peut être un motif légitime d'entrer en contact avec l'association. Des problèmes de voisinage, des nuisances sonores, du harcèlement au niveau du voisinage, ça fait partie de choses qui peuvent faire l'objet d'une plainte d'ailleurs, et qui peuvent faire l'objet d'un accompagnement, tout à fait.
Voilà, et d'autant que souvent dans ces structures-là, c'est des structures d'accueil pour personnes vulnérables, personnes handicapées, il y a des responsables, il y a une structure c'est leur rôle de prendre soin de ça, et dans le cas où ça se met pas en place, ces personnes peuvent par exemple prendre contact avec vous.
Et être
accompagnées par exemple.
Pourquoi pas, oui, si c'est pertinent, oui, rien ne l'empêche.
Oui, c'était pour élaborer différentes pistes plus larges que celles qu'on va aborder, qui sont de la violence pure et dure. Voilà, c'était pour dire
que... Oui, la très grande majorité des personnes qui nous contactent, c'est parce qu'elles ont été victimes d'agressions. Ça peut être évidemment des violences conjugales, ça peut être des agressions sur la voie publique, dans la rue, à l'extérieur, ou également dans le cadre du travail, des vols, des cambriolages, des escroqueries, pour l'essentiel.
Oui, oui, oui. Et du coup, vous faites en sorte de les orienter si elles le souhaitent, enfin de les amener à décider si elles souhaitent entamer des procédures ou si elles souhaitent entamer, réfléchir sur ce qui s'est passé ou...
Tout à fait, c'est vraiment du cas par cas, c'est du coup humain, c'est en fonction des attentes de la personne, en fonction de ce qu'elle va faire, des informations qu'on va pouvoir lui donner. C'est toujours un temps de réflexion, on se donne toujours quelques rendez-vous avant que généralement elle prenne la décision d'aller plus loin ou pas, que ce soit sur le plan judiciaire ou sur le plan d'un accompagnement psy plus spécifique.
Alors, je ne sais pas si... oui, on a abordé un petit peu l'éventail des thèmes, enfin, si on peut dire ça comme ça, qui amènent les femmes à prendre contact avec vous. On va revenir tout de suite sur ces maltraitances et violences faites aux femmes, mais je vais donner la parole à Claire qui va nous donner quelques numéros de téléphone.
D'accord.
Alors Claire.
Alors j'y vais.
Oui.
Donc la plateforme nationale de signalement de maltraitance. Si vous êtes un témoin d'un excès de maltraitance sur une personne vulnérable, vous pouvez appeler le 39 77. Association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, si vous êtes une femme déficiente visuelle et que vous subissez des maltraitances et ou des violences, appelez le 01 45 66 03 97. Association Écoute Violence, Si vous êtes une femme en situation de handicap, que vous subissez des maltraitances, appelez le 01 40 47 06 06. Association SOS Amitié. Une personne bénévole est à votre écoute 24 heures sur 24. Vous pouvez parler librement pour exprimer vos souffrances, votre solitude, vos difficultés. Appelez le 09 72 39 40 50. Et la dernière, Fondation La Cause, pour les déficients visuels et pour tout public. La Cause organise des séjours. Elle s'occupe aussi d'enfants déficients visuels en Afrique et aussi à Haïti. Appelez le 01 39 70 60 52.
On fait une petite pause, Jérémy Hellman, et on se retrouve, je vous retrouve tout de suite après la pause.
Okay.
Alors, Saja, qu'est-ce qu'on écoute ?
On va écouter Poussière d'or de Stéphane.
Voilà, un peu de poésie dans ce monde de brut.
Dans ce monde de brut, ouais.
Micro coupé.
Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. L'espoir dans le matin bleu, soudain vacille et chancelle. Comment en sommes-nous venus là? Qui nous a égarés là? Nous n'avons fait qu'obéir, nous n'avons pas su choisir. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. Combien faudra-t-il de peine avant que la joie revienne? Tout ira de mieux en mieux, tout sera si merveilleux. Quel doux chant, quel joli rêve, quel doux miel à nos lèvres. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. Au cadran, les heures s'abîment, à l'horizon, rien ne brille. Aube froide et moment pourrait nous assassiner. Demeurons côte à côte, avançons l'un contre l'autre. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. L'espoir si au matin bleu, comme l'eau au lacrymogène. Le chemin semble sans fin, de quoi sera fait demain? Sinon des goudrons à main, sinon des miroirs des âmes. Quel choix de garder la foi, quelle chance d'être quelquefois aveuglé par son ardeur, inondé par sa blancheur.
Donnez une voix à celles qui n'en ont pas. Radio Campus Paris 93.9 FM.
Et oui, vous êtes sur Radio Campus Paris, l'émission Donner une voix, Moni au micro, Saja avec nous, Claire et notre invité Jérémy Hellmann, psychoclinicien qui va nous parler tout de suite des traumatismes, des conséquences de la maltraitance et des violences sur les femmes. Et là, on va peut-être, Jérémy, si vous le voulez bien, aborder les traumatismes que ça peut engendrer. Sauf si vous avez envie de parler d'autre chose, c'est pas interdit. Alors, allons-y.
Oui, il y a un dénominateur commun chez les victimes d'infractions pénales que nous recevons, les personnes qui ont été victimes de violences, que ce soit des violences physiques ou psychologiques. Pour les personnes que nous rencontrons, dans la plupart des cas, ce sont des personnes qui vont présenter, si les faits sont récents et qu'il y a eu des violences assez importantes, elles vont présenter ce qu'on appelle des symptômes psychotraumatiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles vont présenter des symptômes réactionnels, des symptômes, des signes cliniques qui vont être la conséquence de l'événement ou des événements.
Des événements subis.
Exactement. En règle générale, ce qu'on observe, ce sont ce qu'on appelle des reviviscences traumatiques, des flashbacks. Les personnes vont avoir des pensées envahissantes, intrusives, qui vont reproduire l'événement ou les événements vécus. Malgré elles, elles ne cherchent pas du tout à penser à l'événement, mais cet événement va s'imposer et ils vont revivre la situation sous forme de flashback ou de reviviscence.
C'est-à-dire éveillées dans les cauchemars
Alors, en plein jour, alors qu'elles n'y pensent pas spécialement, d'un seul coup, il y a un flashback, il y a une scène qui va être revécue et qui va faire que la personne va se dissocier par rapport à ce qui l'entoure. Voilà. Et puis ça peut revenir sous la forme de rêves ou de cauchemars traumatiques où la personne, dans son sommeil, va revivre l'événement d'une façon qui est généralement brute. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de déformation par rapport à la réalité de ce qui s'est passé. Souvent, dans le rêve, les choses sont déformées. D'ailleurs, quand les rêves deviennent progressivement déformés par rapport à la réalité, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que les choses évoluent. Tant que les choses se répètent à l'état brut, ça veut dire qu'on est vraiment dans la répétition traumatique. C'est vraiment ce qui signe le traumatisme psychique. On dit que ces flashbacks, que ces reviviscences traumatiques sont pathognomoniques, c'est-à-dire elles sont spécifiques, elles signent le traumatisme psychique, elles signent l'effraction traumatique.
Et le fait que ça ne bouge pas pour l'instant, que c'est toujours encore très puissant, finalement.
Oui, généralement, au début, c'est très envahissant, très présent. C'est associé à des troubles de l'endormissement, troubles du sommeil et de l'endormissement, des réveils nocturnes, souvent des cauchemars de répétition associés, un repli sur soi, un retrait social très important, des stratégies d'évitement de tout ce qui pourrait rappeler de près ou de loin l'événement. C'est-à-dire qu'on ne sort plus de chez soi, on va éviter de repasser à l'endroit où ça s'est passé, on va éviter les conversations, on va éviter à la télé ou sur Internet s'il y a quelque chose qui est évocateur de l'événement, on va éviter activement tout ce qui se rattache, tout ce qui nous rappelle l'événement. Les phénomènes d'intrusion, les reviviscences, les stratégies d'évitement, et puis il y a très souvent également ce qu'on appelle l'hypervigilance, c'est-à-dire que la personne va être sur ses gardes, sur le qui-vive.
Sur le contrôle, quoi. Okay.
Alors, c'est pas seulement le contrôle, c'est vraiment fait de se sentir en permanence en danger et en insécurité. L'impression que l'événement pourrait se reproduire, et donc ça conduit les personnes à être en permanence sur leur garde, sur le qui-vive, en état d'insécurité permanent et avec des réactions de sursaut très exagérées, involontaires, au moindre bruit, à la moindre chose qui va les surprendre, on va observer des réactions de sursaut très exagérées. La personne est vraiment en état d'hyper-éveil, d'hyperactivation neurovégétative. Tous les sens sont en alerte. Les jeunes disent qu'ils sont en mode radar. C'est-à-dire qu'en permanence, j'observe ce qui se passe autour de moi de façon à être prêt à réagir à un éventuel danger qui pourrait se reproduire.
Voilà. Alors, comment, par exemple, face à ce trauma-là, par exemple, qui concerne, en fait, c'est la réaction de plusieurs traumas, en fait. Pas de plusieurs traumas, mais ça peut être la réaction de divers traumas. Comment, quand on est dans la famille, on peut aider la personne face à une attitude comme ça? Parce qu'on a eu l'occasion d'en parler pendant la préparation. Voilà, il y a des choses à accepter, c'est-à-dire à permettre à la personne qui réagit comme ça, reconnaître au fond ce qu'elle vit et ne pas lui dire non mais c'est rien ce qui t'est arrivé, c'est pas grave, tu vas oublier. Non, faut pas être comme ça, il faut... Qu'est-ce que vous conseillez, si tant est qu'on puisse conseiller...
C'est difficile de conseiller parce que...
Les conseillers sont pas les payeurs, voilà, selon le vieil adage.
C'est toujours embêtant soit de nier la réalité de ces symptômes, soit de vouloir chercher à les normaliser ou les banaliser.
Oui, tout à fait. C'est difficile de trouver un juste milieu parce que à la fois on voudrait apporter une légèreté et en même temps on risque de nier ce que la personne a vécu. Hein.
C'est ça. Mmh. L'idée, je crois, c'est d'être à l'écoute, d'accueillir, d'écouter évidemment la personne et de l'accompagner dans les démarches.
Oui, c'est ça.
Souvent, les personnes ne sont pas à même d'effectuer les démarches parce qu'il peut y avoir un phénomène de sidération. Il y a une anxiété très importante qui suit le ou les événements. La personne a souvent des difficultés à faire les démarches. Elle a des difficultés de concentration, des difficultés à mémoriser les choses. Hein, donc, c'est très compliqué pour faire les démarches. Mmh. Donc, souvent, ce qui va aider les personnes, c'est d'être accompagnées dans les différentes démarches auprès des structures d'aide aux victimes, notamment.
C'est ça, de sentir un appui, finalement, quelqu'un sur qui s'appuyer pour aller...
C'est ça, pour prendre un rendez-vous, pour être accompagné à un rendez-vous, parce que très souvent, la personne ne va pas faire les démarches. Remplir des papiers, elle ne pourra pas le faire. Mmh, décrocher son téléphone, elle ne le fera pas. Mmh. Se rendre toute seule à un rendez-vous, la personne aura beaucoup de mal. Alors que si elle est soutenue dans tout cela, ça facilite énormément les choses.
Très bien. Voilà déjà des petites pistes pour les familles qui nous écoutent et qui auraient envie de venir en aide à leurs proches, à une femme proche d'eux. On pourrait parler peut-être aussi des personnalités, des profils d'hommes maltraitants dont voilà, on a eu l'occasion d'en parler. Mm-hmm. Peut-être ça serait intéressant parce que c'est aussi le cheminement que vont faire ces femmes pour éviter de retomber sur un autre. Hein, quitter un homme maltraitant pour un autre maltraitant, ça apporte pas grand-chose. Autant rester avec le même. c'est pas très joyeux, c'est pas très gay, mais franchement, voilà. Parce que ce qui est important quand on quitte quelqu'un, quand on quitte une situation qui nous convient pas, c'est d'éviter de retomber avec. Or, si on l'a vécu, c'est qu'il y a des chances qu'on si on ne travaille pas dessus, de retomber dessus.
Alors, effectivement, c'est un risque, oui. Juste en préambule, dire que dans les violences conjugales, évidemment, c'est très très souvent un homme qui maltraite une femme, mais que ces situations de violence psychologique ou physique, elles existent aussi au sein de couples homosexuels, hommes ou femmes que j'ai déjà rencontrés. Voilà, c'est évidemment beaucoup plus rare, mais ça existe.
Voilà. Oui, c'est important de le dire. Après tout, que ce soit un homme ou une femme, c'est des personnes en souffrance.
Oui. Voilà. Alors, après, il y a quand même une certaine spécificité au niveau du fonctionnement de certains hommes que j'ai pu rencontrer aussi quand j'étais détaché de l'association à l'hôpital pendant quelques années. Oui. J'ai reçu un certain nombre d'auteurs et à l'association d'aide aux victimes, il arrive que des hommes auteurs tentent de se faire passer pour des victimes et accèdent jusqu'à nous pour des rendez-vous. Mmh. Donc il m'est arrivé de rencontrer des auteurs qui se faisaient passer pour des victimes, ce qui est assez intéressant.
Ah oui,
voilà. Et donc là, on repère assez facilement ces profils quand on les connaît. Hein, si on les connaît pas, c'est plus compliqué. Quand on les a déjà rencontrés, on les repère assez facilement. La caractéristique de ces hommes qui sont violents ou manipulateurs avec les femmes, c'est que ce sont des hommes qui ont deux visages.
Oui.
Voilà,
il faut faire attention. Enfin, je ne sais pas s'il faut faire attention, mais je voulais juste rajouter une petite chose. C'est qu'il y a un profil dont on parle tout le temps, partout, pour tout et n'importe quoi maintenant. Tout le monde est un pervers narcissique. Mm-hmm. Donc, est-ce que c'est ce profil-là ? Est-ce que... Pas forcément.
Ça peut être ce profil-là,
mais
ce profil-là n'existe pas dans la manière dont on classifie les maladies mentales ou la psychopathologie. Mais ça peut recouper différentes formes de différents troubles de la personnalité, en réalité.
Oui, on peut être un homme violent sans forcément avoir une...
Il y a différentes façons d'être violent et on peut avoir un trouble de la personnalité ou pas. Donc voilà, c'est un petit peu simplificateur et réducteur, mais ça donne une idée quand même.
Oui, voilà.
Moi, je peux vous parler simplement de ce que je connais, de ce que j'ai observé.
Tout à fait.
Mais simplement observé.
Déjà deux visages.
Des invariants que j'ai observés et repérés depuis plus de 25 ans. Ce sont des hommes qui ont deux visages. C'est-à-dire, quand on les rencontre, on tombe sur des personnes personne absolument charmante. Hein. C'est un peu le gendre idéal, le mari idéal. C'est un homme qui va être très poli, très attentionné, qui va tenir la porte à la dame, qui va laisser sa place dans le métro. Vous voyez, c'est vraiment des choses comme ça. C'est des personnes qui vont être dans la séduction. Bon, avec très souvent... un idéal du moi assez mégalomaniaque. Hein, sont des personnes qui ont un peu des idées de grandeur. C'est pour ça qu'on dit pervers narcissique, parce qu'ils sont très narcissiques souvent, ces hommes-là. Hein.
Alors, Jérémy Hellman, comme le temps passe, malheureusement, on n'aura pas le temps de tout aborder. Qu'est-ce que vous pourriez, à nouveau, hein, je sais bien que je connais votre réponse, mais que je vais quand même vous la poser. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces femmes qui nous écoutent lorsqu'elles se retrouvent dans cette situation, dans une situation de maltraitance, de violence?
Oui.
Comment on pourrait, parce qu'on ne va pas tarder à conclure l'émission, et malheureusement, on n'aura pas eu le temps d'aborder tous les sujets qu'on aurait aimé. Et qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour qu'elles osent notamment appeler SOS Victimes ou demander de l'aide, en tout cas?
Il faut qu'elles comprennent qu'elles sont sous emprise, qu'elles sont manipulées, qu'elles sont désinformées, que ce qu'elles vivent avec cet homme, généralement, c'est une dévalorisation très importante, des humiliations très importantes, des informations fausses qui sont communiquées. Il faut qu'elles puissent joindre des professionnels, encore une fois, de façon anonyme, gratuite et sans engagement, pour être informées sur la réalité des choses et ce qu'elles peuvent faire, parce qu'on s'en sort pas seul, c'est pas vrai. Quand on est sous l'emprise de quelqu'un qui est un manipulateur, on ne s'en sort pas seul, on a besoin d'être aidé par un copain, une copine, une voisine, un professionnel, si de surcroît c'est encore mieux.
Ah oui, oui. Surtout qu'en général, on le sait, ils se chargent bien d'isoler leurs victimes.
Oui. Absolument, voilà. Absolument. Je peux vous donner quand même le numéro
absolument.
Pour contacter toutes les associations au niveau du réseau France Victimes, c'est le 116 006. Et là, ça vous permet d'être dirigé sur l'association d'aide aux victimes dont vous dépendez géographiquement. Et là, il y a ensuite, sous certains critères, des possibilités d'être aidé. Il y a des mesures de protection qui existent. Il y a l'ordonnance de protection, il y a le téléphone grave danger, il y a les bracelets anti-rapprochement. Tout ça, ce sont deux mesures qui existent. Certaines personnes sont éligibles. Il y a des critères assez stricts et c'est uniquement en passant par des professionnels qu'on peut faire ce type de démarche, parce que c'est assez compliqué sinon. Hein, en théorie, on pourrait se débrouiller tout seul, mais il vaut mieux passer par une association d'aide aux victimes du réseau France Victimes pour se faire accompagner dans ces démarches.
Voilà, voilà, merci. Oui, surtout que dans ces situations, on est plutôt épuisé, plutôt remué par beaucoup de choses. Donc, en tout cas, SOS Victimes, c'est une possibilité pour être accompagné et sortir de ces emprises.
Voilà, SOS Victimes 93, qui se trouve à Bobigny. Et le numéro de téléphone, c'est 01 41 60 19 60.
Voilà, Jérémy Hellman, un grand merci, merci infiniment
merci
pour tout ce que vous faites pour les femmes. Merci d'avoir accepté notre invitation et ben voilà, j'espère que les auditeurs, les auditrices ont bien pris note de tout ce que vous nous avez enseigné et que eux-mêmes pourront eux-mêmes pourront à leur tour transmettre tout ce que vous nous avez appris aujourd'hui. Merci infiniment.
Merci
Jérémy. Un grand merci à Saja d'avoir réalisé l'émission. Merci Saja.
Je t'en prie.
Merci infiniment. Merci Claire d'avoir accueilli notre invité.
Avec plaisir.
Et puis merci pour les numéros que tu nous as transmis aujourd'hui, tu nous as donné aujourd'hui. Merci.
Avec plaisir.
Voilà, et surtout, merci à chacun de vous de nous écouter. Si l'émission existe, c'est grâce à vous. Cette émission existe parce qu'il faut qu'on vienne en aide aux femmes, à nos sœurs, nos mères, aux autres femmes qui sont en difficulté. On ne peut pas évoluer, être heureux et se contenter juste d'être heureux. C'est important aussi de s'occuper des autres et de veiller sur eux. Voilà, et je vous dis à vendredi dans 15 jours. Merci infiniment à vous tous.
Au revoir.
Et toutes.
Donner une voix à celles qui n'en ont pas. Radio Campus Paris 93.9 FM.